Pauline Pucciano. Titania 2.0. À 7h52, le lendemain matin, comme tous les matins ouvrés, il sortit dans la rue. Le plus difficile était sans doute de se réadapter constamment à différents niveaux de bruit. Celui de la rue était assourdissant. Les véhicules, les générateurs, les voix humaines, les musiques émanant çà et là de portes qui s'ouvraient, les alarmes, les annonces vocales. Il songea ce matin-là à l'étrangeté du monde quelques siècles plus tôt, avant la révolution numérique, avant même l'électricité. Le monde devait être si vide, si silencieux. On ne devait entendre que des choses simples, des claquements de sabots, des cloches, des outils manuels, et tous ces bruits simples sur un fond perceptible de silence. Maintenant, le silence n'existait plus, du moins pas dans le monde réel. Il n'y avait que des niveaux de bruit, plus ou moins supportables, mais nulle part la toile du monde n'était plus blanche. Lassé de cette agression sonore, il brancha ses écouteurs et choisit une musique vocale, assez lente et grave. Le monde devint soudain feutré, plus doux, plus distant. Jean eut l'impression rassurante d'en être séparé par une sorte de vitre. Les mouvements extérieurs perdaient de leur sens et prenaient parfois une poésie inattendue. Son travail n'était pas loin. La politique d'économie d'énergie incitait fortement à se loger dans un rayon de 1 km autour de son lieu de travail. Les immeubles se ressemblaient tous, les appartements étaient presque interchangeables et la flexibilité de l'emploi générait une forte mobilité géographique qui ne dérangeait d'ailleurs pas vraiment les employés, habitués à transporter leur monde avec eux dans l'étui de leur RV. Jean était ingénieur en technologie de clonage nutritionnel. Son unité de production gérait la conception, la fabrication et la distribution de poissons synthétiques. Un métier de laboratoire qui ne lui déplaisait pas. Il avait toujours été du genre solitaire et avait toujours fui, comme la peste, tous les métiers sociaux dont on faisait la promotion à l'école. La politique, l'enseignement, la justice, le journalisme étaient des domaines où sa mère s'était toujours sentie à l'aise et qu'il avait, lui, toujours rejeté. Il préférait manipuler des cellules et tripoter des génomes, cela apaisait son esprit. Il était presque arrivé à destination lorsqu'il fut brutalement interpellé par un sécuribo. La machine oblongue, de taille humaine mais de forme ogivale, dotée d'un mécanisme d'autopropulsion et d'orientation GPS, ainsi que d'une intelligence artificielle intégrée, s'arrêta à sa hauteur pour lui barrer le passage, non sans heurter quelques passants distraits qui levèrent des yeux curieux et vaguement inquiets sur lui. « Libertons Jean, identité informatique 3B, 7148912. Vous êtes convoqué d'urgence au commissariat dans le cadre de l'enquête 56-7-BQ-2178. Acceptez-vous de me suivre sans résistance ?»« Oui, » dit-il surpris, en ôtant machinalement ses écouteurs. « Si vous restez dans un rayon de 3 mètres autour de moi, vous ne subirez aucune violence. » Il hésitait entre la peur et l'envie de rire. Il n'avait rien à se reprocher, à sa connaissance du moins, et supposait qu'il devait être entendu en tant que témoin. Le développement de la criminalité avait durci les pratiques policières. On ne s'embarrassait plus d'un certain nombre de choses depuis des décennies. Les sécuribos, appelés par l'argot de la rue les armoires roulantes, étaient équipés d'un rayon taser infaillible et leur structure creuse leur permettait de transporter un homme dans des conditions sécurisées mais cauchemardesques. On s'en sortait en général avec une bonne migraine et quelques contusions. « Pouvez-vous m'indiquer pourquoi ?» demanda Jean, en songeant qu'il était encore une fois en train d'adresser la parole à une intelligence artificielle. « Dans le cadre de l'enquête 56-7-BQ-2178. » « Sur quoi porte cette enquête ?»« C'est l'enquête 56-7-BQ-2178. » Il hocha la tête. L'intelligence artificielle des sécuribos n'était pas de la dernière génération. « Puis-je laisser un message à mon travail ?»« Votre convocation d'urgence a déjà été transmise. » Jean s'appliqua à talonner le sécuribo, n'ayant pas la moindre envie de jouer les costumes dans une armoire roulante. L'exercice n'était pas si aisé, car le sécuribo allait d'une allure inhumaine, évitait les obstacles au dernier moment et n'anticipait aucun virage. Il arriva donc totalement essoufflé devant l'entrée du commissariat. « Vous êtes attendu au 3e étage, couloir jaune, porte 329. Je vous souhaite une bonne journée. » La machine attendait que Jean pénétrât dans le commissariat. S'il avait fait un mouvement pour essayer de s'éloigner, elle l'aurait circonvenu. Il n'avait pas le choix. Jean n'avait jamais mis les pieds dans un commissariat, et malgré sa nervosité, il ne put s'empêcher de s'étonner de la modernité rutilante du lieu. Lorsqu'il était enfant, la police d'État était en fin de course. Dans des locaux lépreux, des fonctionnaires épuisés, soumis à des exigences exorbitantes, se battaient contre le manque de moyens. Les récits 3D de son enfance étaient pleins de ces policiers héroïques et désenchantés, armés de leur seule intelligence contre une criminalité de plus en plus organisée, de plus en plus riche et puissante, et aussi de ces policiers corrompus qui avaient définitivement largué les amarres et abandonné la traque et fermaient leurs yeux bouffis de graisse sur toutes les malversations, obligeant les honnêtes citoyens à se rendre justice eux-mêmes. Mais il y avait eu la grande désétatisation. La police avait tout simplement cessé d'être publique. Des calculateurs surpuissants, des balises high-tech, des coachs toujours souriants, des sécuribots, des sérums de coopération, toutes ces merveilles avaient fleuri comme par magie, dont des entreprises qui possédaient, parrainaient ou sponsorisaient la police. Les exigences avaient changé. Les homicides sur les hors-réseaux, ou les prostituées, n'étaient même plus enregistrés. En revanche, ce qui dérangeait l'ordre public, c'est-à-dire le monde du travail, de l'argent et des cols blancs, était pris en charge immédiatement avec une célérité surprenante. Certaines affaires ne voyaient même pas le jour, étouffées dans l'œuf. Des représentants du CA instruisaient les enquêtes à la place des juges, donnaient des autorisations, des directives. Les policiers n'étaient plus corrompus, ils travaillaient directement pour l'ennemi. Pas l'ennemi de la rue, non, l'ennemi du haut de la tour, qui veillait éternellement sur une fourmilière humaine dont il était le seul à récolter les fruits. Jean pensa à sa mère, qui lui parlait si souvent du désastre de la désétatisation. « Les libertariens ont tout détruit », disait-elle souvent quand il était petit, et qu'il n'était pas sûr de comprendre ce qu'elle voulait dire. En remontant le couloir jaune de ce commissariat, qui ressemblait à n'importe quelle grande entreprise, il fut également surpris de constater l'uniformité physique des policiers. Hommes et femmes paraissaient bâtis sur le même modèle. Jean n'arrivait pas à savoir s'ils étaient recrutés sur leurs dents blanches, leurs mâchoires puissantes, leur teint hâlé, leur haute stature et la souplesse de leurs pas, ou s'ils subissaient des transformations obligatoires après le recrutement. En tous les cas, ils étaient reconnaissables entre mille, avec comme une marque de fabrique qui remplaçait discrètement, mais efficacement, l'uniforme. Aucun implant de fantaisie n'était toléré, aucune beauté plastique excessive, aucune couleur artificielle. Cette armée d'hommes et de femmes de la trentaine, affichant force et santé, entraînés à sourire et à parler, mais armés de petits bijoux tout droit sortis de l'enfer, ne le mettait pas à l'aise. Il trouva assez rapidement la porte 329. Il ne s'agissait pas vraiment d'une porte en réalité, mais d'un box modulable tel qu'il en existait depuis une dizaine d'années dans toutes les entreprises. Les parois amovibles montaient ou descendaient à volonté, pour passer d'un espace ouvert à un espace fermé, selon les besoins du moment. Un policier aux yeux verts, aux lèvres pleines, au regard franc, à la poignée de main ferme et décidée, l'accueillit machinalement. « Asseyez-vous, je vous prie. » Tandis qu'un siège confortable, de type entretien amical, surgissait du sol, Jean regarda les parois du box monter à leur tour et former un espace clos, ni trop exigu, ni trop vaste. La lumière se tamisa très légèrement. Comment ne pas éprouver de la confiance pour cet homme calme et solide? Comment ne pas éprouver une sensation d'intimité dans ce petit espace protégé? Jean se demanda pour quelle obscure raison il répondait si mal à des suggestions qui fonctionnaient si bien sur la plupart de ses semblables. Le box modulable l'angoissait, et le policier souriant qui plongeait ses yeux verts dans les siens lui inspirait une méfiance absolue. « Libère-t-on Jean Corville ?» Cela faisait déjà quelques décennies que le terme de citoyen était tombé en désuétude. L'administration n'avait d'ailleurs fait en l'occurrence que suivre l'usage. Nul ne savait d'où le néologisme était venu, mais il avait été adopté par la planète entière en moins de quelques jours. On n'était plus un sujet, mot qui supposait une obéissance à un ordre supérieur. On n'était plus un citoyen, mot qui supposait un sentiment d'appartenance à une cité. On était un peu plus qu'un consommateur et qu'une personne juridique. On était un liberton. Dernier rejeton de l'individualisme triomphant et d'un néo-ultralibéralisme assumé, ce mot désignait en quelque sorte l'atome de liberté, l'unité ultime de liberté. Il y avait des molécules, des structures de libertons, réseaux, communautés, entreprises, familles. Mais l'individu restait en quelque sorte la particule élémentaire, sans cesse réaffirmée dans sa souveraineté. Le liberton était l'agent du droit, du commerce, de l'économie, de la politique, de l'art, de la famille. « Oui, » dit Jean, non sans se remémorer l'exaspération de sa mère face à la déhiscence soudaine de ce mot. « C'est intéressant, » dit le policier. « Quand on regarde vos diagrammes de contrôle, à première vue, vous êtes presque hors réseau. » « Que voulez-vous dire, agent... »« Les tourneaux, agent les tourneaux. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas très sociable. » Les tourneaux, non sans cesser de sourire et de mâcher ce qui semblait être du chewing-gum, mais qui était peut-être un implant lingual saporifique, projeta l'écran de son Hervé sur l'un des murs du box, de façon à ce que tous deux puissent le voir. « Vous voyez, Corville, chez les gens normaux, ça ressemble à ça, un diagramme de contrôle. » Il entra rapidement son propre nom dans son logiciel, et un diagramme complexe apparut. En rouge, un point infime, au centre de ce qui ressemblait à des toiles d'araignées superposées en une structure presque illisible. Les libertons habituellement sont interconnectés, voyez-vous. Ils participent à de nombreux réseaux. Mais vous... Il revint par une manipulation instantanée à l'écran précédent, qui montrait un point rouge assez solitaire, à l'intersection de trois ou quatre droites, dans une sorte de trou du maillage. « Eh bien ?» demanda Jean le plus poliment possible. « Eh bien, d'habitude, ça cache quelque chose. Les perturbateurs en tout genre se planquent et leurs réseaux n'apparaissent pas dans mon logiciel. Ils sont clandestins. Ils gardent trois ou quatre réseaux visibles, comme vous. La famille, le travail, un hobby quelconque. Mais ça ne trompe personne. » « Est-ce pour cela que je suis convoqué ?»« Non, 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 rassurez-vous. On n'est pas dans 1984. Les policiers n'ont pas que ça à faire de traquer les gens qui ne vivent pas comme les autres. J'irai même plus loin, d'ailleurs. Tant qu'on n'attente pas aux libertés, moi... » Jean remarqua qu'il ne finissait pas ses phrases, et cela l'agaça. Il avait hâte d'en venir au fait. Attenter aux libertés était devenu presque l'unique chef d'accusation. Le terrorisme et l'insécurité dans les lieux publics avaient été éradiqués avec application. Puis étaient venues les lois libertariennes, à proprement parler. Interdiction de la grève, qui portait atteinte aux libertés des collègues de travail et des libertons pris en otage par les grévistes. Déréglementation générale du travail, parce que le droit du travail portait atteinte à la liberté de licencier et de travailler plus. Démembrement de tous les systèmes sociaux redistributifs, qui portait atteinte à la liberté de gestion de son argent. Abandon des vitesses maximales autorisées, autorisation générale du port d'armes et dépénalisation de la légitime défense, légalisation de tous les produits stupéfiants, ouverture totale des frontières. Mais dans cette liberté généralisée, idolâtrée, il fallait faire attention où l'on mettait les pieds. Parce que si l'on empiétait sur la liberté d'autrui, cela pouvait coûter très cher. Chaque liberton était impliqué, en tant que partie civile ou en tant qu'accusé, dans plusieurs procès à la fois, dont l'issue pouvait être fatale. La ruine, la chute hors réseau, le suicide en étaient des conséquences courantes. « Pourquoi suis-je convoqué alors ?»« Patience, liberton Corville, patience !» L'agent Les Tourneaux pianotait sur son Hervé, sans regarder ses doigts jamais. Des fenêtres s'ouvraient à l'écran, se superposaient, puis s'organisaient toutes seules de manière intelligente, se hiérarchisaient, formaient des groupes, devenaient lisibles. « Je n'ai même pas besoin de logiciel de reconstruction des emplois du temps, » dit Les Tourneaux. « C'est trop facile avec vous. Votre vie est un miroir. »« Ah oui ?»« Mais oui, tenez, depuis hier, vous avez écrit une chanson, vous vous êtes baladé à l'Identitemple, vous avez mangé au Chinois, vous avez lancé une recherche sur Titania. Je n'ai même pas besoin de faire l'interrogatoire. » Jean avait décidé de se taire. Les Tourneaux parlaient tout seuls et paraissaient particulièrement satisfaits de sa démonstration. « Vous n'êtes pas un perturbateur, Corville. Vous êtes juste paumé dans le 22e siècle. On dirait que vous vivez comme il y a 200 ans. » Les Tourneaux continuaient ses recherches. « Ah, enfin quelque chose d'un peu croustillant. Je commençais à m'ennuyer. Votre mère. » Jean sentit son cœur se contracter dans sa poitrine, comme si l'on venait de profaner ce qu'il avait de plus cher. Une activiste étatiste, plusieurs fois soupçonnée de sabotage, mais jamais convaincue. Très surveillée par nos services, avant le grand remaniement. Jean était surpris. Il ignorait que sa mère avait été surveillée. « Un peu de respect pour mon deuil, agent Les Tourneaux, » dit Jean d'une voix sèche. Bien sûr, Liberton Corville, bien sûr. Loin de moi l'idée de vous manquer de respect. Enfin bref, vous voilà promu. » Jean s'imposa une ou deux respirations profondes pour éviter de s'énerver. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, agent les tourneaux, être un peu plus explicite ?»« Promu au rang des taupes, des indiques, des mouchards, appelez ça comme vous voudrez. Les membres du conseil d'administration de la police, des gens très influents, comme vous le savez, s'intéressent de près à votre nouvelle rencontre. » « La jeune fille ?»« Titania, oui, alias Arwen, alias Lioa, alias Fedora, alias Karenine, alias Médée, alias Daenerys, alias Mina. Voulez-vous que je continue ? Elle change de nom à une fréquence moyenne de 5 mois et 4 jours. »« Elle n'a pas de vrai nom ?»« Si, probablement, mais pour le moment ce sera un point d'interrogation. »« Pour vous ou pour moi ?»« Pour vous, en tous les cas. » Je la connais à peine, je ne l'ai rencontrée qu'une fois par hasard. Oui, nous le savons, et vous devez aussi la revoir ce soir, et vous allez vous débrouiller pour la revoir souvent. » Les tourneaux diffusa un portrait de la demoiselle, presque nue, les cheveux, les ongles, les lèvres et les tétons, recouverts d'or. « Ça ne devrait pas être trop pénible, hein ?» demanda les tourneaux. « Je vous en prie, » dit Jean, en détournant les yeux. Les tourneaux ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Je n'en crois pas mes yeux, » dit-il. « Vous en êtes un vrai, vous. » Jean ne releva pas. « Si je refuse ? » ?»« Je ne vous le conseillerais pas. » « Pourquoi ? » ?»« Entrave à la bonne marche d'une enquête, ça peut vous emmener loin. » »« Mais je ne sais même pas ce dont il est question. » »« Moins vous en saurez, mieux ce sera pour vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire votre petit rapport tous les jours. » »« Ici ? » ?»« Non, ne soyez pas ridicule. » Le présentiel est une perte de temps pour tout le monde. Vous n'avez qu'à poster votre rapport encrypté sur le forum qui figure ici. Un rapport crypté ? Mais voilà le crypteur, à brancher sur votre RV pendant que vous tapez votre rapport. N'oubliez pas de le débrancher après. Un forum de généalogie ? Vous vous foutez de moi ? Pourquoi ? Vous aurez peut-être l'occasion d'y apprendre quelque chose sur les Corville ? Je n'ai pas encore accepté. Mais si, vous avez accepté. Je vous dis que vous n'avez pas le choix. Moi non plus, je n'ai pas le choix. On me donne un ordre, je l'exécute. Je vous donne un ordre, vous l'exécutez. Il n'y a rien de plus simple. A-t-elle enfreint la loi ? Est-ce une perturbatrice ? Ça, ce sera à vous de me le dire, mon petit Corville. Les tourneaux regarda son Hervé et, imperceptiblement, la lumière redevint plus crue, tandis que les parois amovibles du box rentraient dans le sol, libérant tout à coup le bruit diffus du commissariat. Jean n'eut que le temps de sauter à terre avant la rétractation de son fauteuil, le crypteur dans une main et dans l'autre la main énergique de l'étourneau. « Au plaisir, Liberton Corville. Nous savons pouvoir compter sur votre coopération. » Il avait une haleine parfumée au citron. Jean s'éloigna le long du couloir jaune et soudain se retourna. « Agent l'étourneau ? » ?»« Oui ? » ?»« Je n'écrivais pas une chanson, mais un poème. » »« Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, Corville ?» Rien, c'est moi. Ça me rassure juste de savoir que vous ne savez pas tout. » Les tourneaux le considéra un instant avec perplexité, avant d'éclater d'un rire sonore, un rire de mal dominant. Où donc étaient passés les flics désabusés des récits 3D de son enfance, et ceux, bien plus morts encore, des séries noires du premier siècle du cinéma ? Thank you.